CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, on va vous parler habitat et vu les dernières fortes chaleurs et vu les prochaines, on va vous donner quelques astuces et système D pour perdre quelques degrés chez vous avec le conseiller en rénovation du service habitat du pays Midi-Quercy. Mais avant ça, et pour la première partie de ce mag, on va vous parler du projet social de territoire. Le territoire, c'est celui de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorge de l'Aveyron. Et chargé de ce projet social de territoire, Mathias Vermès, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez invité autour de cette table l'association Agir ABCD, qui est notamment engagée autour des mobilités solidaires. Nicole Chabert va nous détailler ce projet. Bonjour.
Bonjour.
Et on va aussi parler de l'enfance et des actions d'accompagnement en soutien aux familles du territoire avec Muriel Van Lille pour l'UDAF 82. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut recontextualiser dans quel cadre est né ce projet social de territoire, sur quelle base il a été créé et sur quelles interrogations ?
Alors le projet social de territoire, il a été élaboré en partenariat avec tout un panel d'acteurs locaux. Donc des associations, des habitants, il y a des questionnaires, des temps de concertation qui ont été organisés tout au long de l'année dernière pour pouvoir déployer des actions et se doter en fait d'une feuille de route un peu stratégique qui définit des priorités sociales pour la communauté de communes QRGA, en tout cas pour le territoire de la communauté de communes. Et donc c'est ce projet social qui constitue un peu le cadre de référence de différentes conventions qu'on a avec notamment la CAF du Tarn-et-Garonne et la MSA. Le territoire, il est confronté à plusieurs enjeux. On a le maintien des services aux familles, on a le vieillissement de la population, la mobilité des habitants, l'accès aux droits et aux services, l'isolement social aussi qui peut être très fort dans nos territoires ruraux, le logement et le maintien à domicile, et aussi l'animation de la vie locale. Voilà, c'est des exemples. Et donc l'objectif, c'est de construire des réponses collectives adaptées aux réalités de notre territoire.
Et donc sur des besoins des habitants, comment vous avez fait pour les recueillir ces besoins ?
Alors on avait lancé plusieurs questionnaires en ligne via les applications. La CAF nous a aidé aussi via les allocataires CAF puisqu'elle peut les atteindre et donc avait envoyé des questionnaires à l'attention des personnes qui bénéficient d'allocations de la CAF sur le territoire de la communauté de communes. Et on a organisé une journée table ronde, une sorte de grosse journée table ronde, concertation avec plusieurs animateurs, plusieurs animations pour essayer de faire remonter les besoins sur qu'est-ce qu'on devait continuer, qu'est-ce qu'on devait développer, qu'est-ce qu'on devait éventuellement renforcer pour que ce projet social se pérennise sur les 5 prochaines années, puisque là on a contractualisé sur les 5 prochaines années avec la CAF et la MSA, donc jusqu'en 2029.
Une contractualisation qui passe, j'imagine, par un soutien financier ?
Tout à fait. On a un soutien financier de la CAF, soutien financier de la MSA, et on a aussi des appuis des différentes communes du territoire, ainsi que du conseil départemental, notamment à travers sa maison départementale des solidarités, COSAD Nègrepelisse, avec son antenne à Saint-Antonin, et tous les travailleurs sociaux qui y sont liés.
Un projet social de territoire donc pour la Comcom QRGA où aujourd'hui on parle des deux bouts de la vie hein, là avec l'enfance jeunesse et j'imagine en particulier à destination des personnes âgées pour cette mobilité solidaire de l'association Agir ABCD. La mobilité, c'est vraiment une forte problématique sur un territoire très étendu ici et qui n'a pas beaucoup de transports en commun.
En effet, La communauté de communes avait repéré ce problème très fort et très prégnant, notamment chez les personnes âgées, mais pas que, puisqu'on a aussi quelques demandes qui relèvent de personnes isolées et sans moyen de locomotion pour aller à un rendez-vous, pour aller se faire soigner aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, notre association s'est essentiellement intéressée aux personnes âgées isolées dans un souci de répondre aux problèmes de mobilité et dans le but essentiel de pérenniser le maintien à domicile. Donc nous sommes dans QRGA, donc la zone sans doute la plus, je vais dire un vilain mot, hein, mais la plus pauvre en moyenne de locomotion. C'est vrai qu'il y a une gare pas loin, mais même pour aller à la gare, il y a des personnes qui sont obligées de faire appel à nos services. Donc nous essayons de repérer par le biais des travailleurs sociaux, par le biais de France Service, par le biais de la communauté de communes, par tous les secteurs sociaux, par les médecins, des personnes isolées, vulnérables, fragiles, et qui ont besoin de se déplacer pour aller à des rendez-vous médicaux sur Montauban, voire sur Toulouse, sur Villefranche-de-Rouergue, aller chez le dentiste, aller chez le kiné. Et nous repérons parallèlement à ces besoins des chauffeurs bénévoles qui se mettent à disposition de ces personnes. Et nous, notre objet, notre but à nous, c'est de les mettre en lien, de repérer d'un côté les chauffeurs, de repérer les besoins, de mettre les chauffeurs et les bénéficiaires en lien de façon à ce qu'un accompagnement puisse se mettre en place. Et ce que je voudrais dire, c'est que notre spécificité, ce n'est pas simplement d'être un chauffeur, mais c'est aussi de repérer des personnes bienveillantes qui vont accompagner, attendre dans la salle d'attente, faire une course en rentrant si besoin. Ben voilà, on a aussi ce souci du lien social.
Agir ABCD, qui est une association nationale, donc avec des antennes départementales, c'est un énorme travail de coordination et puis de synchronisation. J'ai envie de dire, n'importe qui ne peut pas prendre n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quelle voiture.
Alors nous avons... Nous sommes un peu stricts sur ce plan-là, c'est-à-dire que nos chauffeurs sont sélectionnés sur depuis combien de temps ils ont le permis, leur disponibilité, on a un entretien individuel avec eux, on leur demande de fournir une attestation disant qu'il n'y a aucune contre-indication à la conduite. Ils passent un test auprès de l'auto-école locale, un test d'une heure et demie. Par rapport à leur véhicule, on vérifie l'état du véhicule, on regarde la carte grise, bien entendu l'assurance, de façon à ce que les déplacements soient pour les uns comme pour les autres dans les meilleures conditions.
C'est un véritable engagement, vraiment, de la part des bénévoles, donc, pour s'inscrire à cette base de données de l'association Agir ABCD. On peut aller faire un détour sur le site internet Agir ABCD, donc sur la communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorges de l'Aveyron, puisqu'on est en train de parler du projet social de territoire. Et à l'autre bout, et pour les familles en particulier, pour les enfants, il y a la maison de la parentalité en QRGA qui propose de regrouper un petit peu tout ce qui est proposé sur le territoire. Vous êtes, vous, la base de données, Muriel.
C'est ça. Oui, effectivement. C'est un lieu ressource pour les parents, ici basé à Quélus, alors avec plusieurs missions, dont une effectivement de bien coordonner les actions parentalité, petite enfance, enfance, jeunesse du territoire. Au travers une page Facebook, les acteurs ont bien identifié quand même la maison de la parentalité et je coordonne un peu toutes ces actions pour permettre à toutes les familles d'avoir un espace où on peut trouver toutes les informations utiles sur les actions parentalité du territoire. Il y a une seconde mission qui est aussi tout aussi importante, c'est l'accueil des familles, c'est-à-dire qu'on est ouvert 5 demi-jours par semaine aux familles, dans l'idée que les familles puissent venir passer une porte et dire, ben voilà, maintenant là, c'est compliqué avec les enfants, les ados, j'ai juste besoin de savoir où j'en suis, j'ai peut-être besoin d'une aide particulière ou juste d'un café pour pouvoir effectivement poser ma difficulté avec mes enfants ou mes adolescents. Et par rapport à ça, alors ensuite, nous organisons pas mal d'actions. Alors, on ne marche pas sur les plates-bandes de toutes les assos existantes sur le territoire, mais au contraire, on va aller chercher ceux qui n'existent pas et aller chercher des financements pour pouvoir mettre en place des groupes pour par exemple les papas, là, les écrans avec les ados, les massages pour bébés. Donc au travers de la maison de la parentalité, on organise aussi nous-mêmes quelques actions qui n'existent pas encore sur le territoire.
Et puis vous regroupez un petit peu tout ce qui se passe déjà, je pense aux lieux d'accueil par enfant, à diverses associations, à Bazart, à Saint-Antonin qui est labellisé espace de vie sociale. Vous permettez à tout ce beau monde de ne pas se marcher dessus et puis vous êtes vraiment le centre qui va permettre, quand on va pousser votre porte, de donner toutes les informations.
Effectivement, c'est un lieu ressource centralisateur, donc on travaille vraiment beaucoup et c'est un peu la clé du succès finalement, c'est de pouvoir travailler avec toutes les associations du territoire, qu'on se connaisse entre nous et qu'on puisse se renvoyer l'un l'autre pour que les parents poussent les bonnes portes au bout du compte. C'est-à-dire que si à la maison de la parentalité, on connaît bien les associations et les missions, ça permet aux familles qui passent la porte de ne pas se tromper et pas pousser la mauvaise porte. Donc on est bien dans la réorientation des familles. Et dont l'écoute particulièrement des familles. Et voilà, on travaille pas mal, effectivement, entre partenaires du territoire. Et c'est aussi une grosse partie du boulot des missions. Donc la mission est l'accueil des familles, la coordination des actions parentalité du territoire. Et puis, effectivement, le travail en réseau avec les partenaires du territoire, qui sont nombreux et qui ont bien besoin, à un moment donné, qu'on se connaisse entre nous.
Oui, alors eux peuvent vous contacter. Et les familles peuvent aussi pousser la porte, donc, à Caylus. Vous êtes juste à côté des studios, tiens, de CFM Radio, dans le tiers-lieu dans la rue du Long, la maison de la parentalité en QRGA. Vous êtes-vous salarié de l'UDAF 82? Qu'est-ce que c'est l'UDAF?
Alors l'UDAF 82 est une association qui regroupe toutes les associations de familles du territoire 82 et qui travaille principalement dans l'objectif des familles et du service aux familles. Voilà, différents dispositifs, dont effectivement celui-ci, et c'est un peu particulier parce que l'UDAF est beaucoup présente à Montauban et très peu sur le territoire. Et comme le disait mon collègue Mathias tout à l'heure, effectivement, on est aussi engagé par la communauté de communes dans le cadre du projet social du territoire pour travailler sur le territoire. Et donc c'est un consortium UDAF, FCPE, ADMR qui travaille pour la communauté de communes.
On parle du projet social de territoire de la communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorges de l'Aveyron dans ce MAC du Pays Midi Quercy aujourd'hui, où vous avez choisi, Mathias, de mettre en valeur l'association donc Agir ABCD autour donc de la mobilité solidaire et cette maison de la parentalité. Vous êtes coordinateur de ce projet social de territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de très rapidement, là, pour conclure, de d'autres projets, d'autres actions qui mériteraient d'être mises en valeur aujourd'hui?
Bien sûr. Donc, par exemple, on essaye aussi de développer sur de la thématique qui est chère aussi à la CAF du Tarn-et-Garonne, l'animation de la vie sociale. On a la CAF, à travers ses dispositifs au niveau national et ensuite départemental, peut labelliser des structures, donc généralement des structures associatives ou des collectivités qu'on peut reconnaître comme des espaces de vie sociale. Je pense que certains en ont déjà entendu parler. On parle des EVS. C'est des structures qui peuvent candidater auprès de la CAF et qui vont derrière remplir des missions d'intérêt général, d'intérêt public sur l'animation de la vie sociale, créer du lien social entre les habitants et un peu de veille sociale aussi pour aller vers des populations, certains types de populations qui peuvent se retrouver dans des situations compliquées ou en tout cas qui auraient besoin de soutien dans certaines configurations. Donc on a par exemple sur le territoire de QRGA une association qui est labellisée en tant qu'espace de vie sociale, à savoir l'association Le Bazar à Saint-Antonin-Nobleval. Et on est en cours de réflexion justement sur ce nouveau projet social de territoire pour aller vers d'autres EVS sur le territoire. Donc il y a aujourd'hui, on va avoir un champ de réflexion là-dessus, notamment sur la partie nord du territoire, puisque le bazar a quand même un impact sur le Saint-Antoninois. Et l'idée, c'est de voir plutôt sur le secteur de Caylus, Parisot, etc., comment on peut essayer d'accompagner des structures pour créer ces espaces de vie sociale. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Après, on a beaucoup d'actions aussi sur tout ce qui touche à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse, tout simplement parce que ce sont des compétences qui sont propres à la communauté de communes, notamment à travers les centres de loisirs, par rapport au fait qu'on organise des séjours pendant les vacances, qu'on va essayer d'aider les jeunes à s'engager dans la formation en termes de BAFA, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses qui dépendent, qui découlent, on va dire, du projet social de territoire et qui sont donc financées par la communauté de communes, mais en lien avec la CAF et la MSA. Voilà.
Si on veut en savoir plus aussi, on a un projet à vous proposer sur la Comcom QRGA. C'est donc vous qu'il faut contacter, Mathias Vermas, en faisant un petit tour sur le site de la Comcom. Vous nous présentiez aujourd'hui l'association Agir ABCD, représentée par Nicole Chabert. Et Muriel Lille, pardon, était là pour la maison de la parentalité de Caylus. Un grand merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
De retour dans ce mag pour une deuxième partie consacrée au confort d'été. On parle du service Habitat du PETR du Pays Midi-Quercy avec son conseiller en rénovation, Kevin Hand. Bonjour.
Bonjour, alors, bonjour à toutes et à tous.
On va proposer quelques gestes d'urgence vu les fortes chaleurs qui viennent de se passer et qui vont se reproduire. On va parler aussi des aides financières qui sont proposées dans le cadre de ce service Habitat. D'ailleurs, pour commencer, Comment ça marche ?
Alors déjà, le service Habitat, il dépend du PETR, Pays Midi-Quercy. Pour rappel, ça regroupe 3 communautés de communes, 48 communes et un peu plus de 52 000 habitants. Au service Habitat, il y a également l'espace Conseil France Rénov, qui est ouvert à tous les particuliers du territoire, où on peut prendre rendez-vous, appeler directement pour avoir des conseils sur la thermique du bâtiment, comment fonctionnent les logements, les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire et également les aides mobilisables à la rénovation des bâtiments.
C'est uniquement pour les propriétaires ?
C'est pour tout type de profil, puisqu'il y a des dispositifs pour les propriétaires et les bailleurs, et également pour les locataires, dans le cadre un peu plus restreint du dispositif MaPrimeAdapt pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Voilà, installer des salles de bain aux normes PMR et prévoir un peu de bien vieillir chez soi en confort et surtout en sécurité.
Alors, on a vu depuis hier un changement dans les aides, MaPrimeRénov. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Si vous êtes là aujourd'hui, Kevin, c'est pour en particulier nous proposer quelques solutions du système D là, pour parer aux fortes chaleurs qui vont revenir d'ici une quinzaine de jours. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter la chaleur de rentrer chez soi et puis faire en sorte qu'elle sorte, si elle y est déjà ?
Et oui, c'est vrai qu'on est particulièrement dans le sujet. On a toutes et tous fait face aux fortes canicules. Ça a été éprouvant. On sait que ça a même été dramatique pour pas mal de personnes sur l'ensemble du territoire, les personnes les plus fragiles notamment. Donc il y a deux types de solutions. Il y a les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre là, rapidement, pour parer à l'urgence dans les 15 jours. Donc les principaux leviers vont être de se protéger des apports solaires. Là, la principale recommandation, ce sont de protéger vos menuiseries des apports de soleil. Il faut savoir qu'une menuiserie, un mètre carré de menuiserie exposée au sud, ça va être 700 watts. En gros, c'est un radiateur électrique dirigé vers les occupantes et occupants du logement. Donc, pour faire face à ça, on limite les apports solaires, le rayonnement solaire. Donc, quand on le peut, on ferme ses volets si on en a, qu'ils soient électriques ou battes en bois, tout va bien. Si on n'en a pas, pour l'instant, on met du blanc de meudon, c'est-à-dire si on arrive à en trouver, parce que ça devient compliqué, de la poudre de craie qu'on dilue et on vient faire comme une peinture blanche à l'avant des menuiseries, côté extérieur. On peut même avoir recours à des couvertures de survie. L'idée, c'est vraiment d'opacifier. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une solution durable dans le temps, mais là, en 15 jours, c'est ce qu'on peut mettre en place. Je pense notamment aux logements individuels, chacune et chacun chez soi, mais aussi aux crèches, aux écoles, tous ces bâtiments publics qui ont dû faire face de façon aléatoire et comme ils pouvaient, sans grande préparation malheureusement en amont de la part des pouvoirs publics, j'ai envie de dire. C'est un sujet qu'il va falloir maintenant prendre à bras le corps, et ça, on sait que c'est performant. Couper le rayonnement solaire à la source. La deuxième option...
Alors pardon, c'est à l'extérieur, hein, c'est-à-dire que si on met un épais rideau à l'intérieur, bah, ça marche, mais quand même vachement moins bien.
Oui, voire quasiment pas, parce qu'une fois que la chaleur est rentrée, elle sera un peu emprisonnée entre votre rideau et la fenêtre, mais elle est à l'intérieur du logement et elle va continuer à se diffuser. Donc, petit aparté sur les fenêtres de toit de type Velux, un store intérieur n'est pas du tout suffisant à limiter les apports solaires et à faire baisser la température. Il faut vraiment que la protection solaire, aussi rudimentaire soit-elle, soit placée à l'extérieur du logement. L'autre grande solution, c'est quand même de ventiler la nuit. Même si les températures redescendent pas énormément la nuit, là, pendant tout l'épisode de canicule, il faisait quelques degrés de moins vers 3 heures du matin qu'à l'extérieur. Alors là, on ouvre en grand et même on surventile, c'est-à-dire que s'il y a besoin de diriger un ventilateur d'une pièce vers l'autre pour forcer la circulation d'air et rafraîchir le logement, c'est le moment de le faire. Là encore, en ce moment, il fait plus frais, on s'est réveillé ce matin, on a un peu envie de vivre avec enfin les fenêtres ouvertes. malheureusement, il va falloir continuer à décharger la batterie. C'est-à-dire que nos murs, nos sols ont stocké de la chaleur et il faut l'évacuer, continuer à l'évacuer, continuer à faire les mêmes gestes que l'on faisait pendant la canicule pour que la température générale du bâtiment redescende en prévision de ces prochains pics de chaleur.
Donc continuer à fermer les volets et en journée.
Oui, continuer à fermer les volets pour que le soleil ne puisse pas rentrer, la chaleur, même si c'est contre-intuitif. Voilà, on décharge la batterie, c'est important. Jusqu'à présent, on faisait peu cas du confort d'été parce qu'on n'avait pas des pics de chaleur aussi importants et surtout aussi précoces et répétés. Maintenant, il y a vraiment de nouvelles pratiques à mettre en œuvre où tous les individus sont au centre et acteurs de leur confort au sein du logement.
Et on a la petite technique du ventilateur. Qu'il est préférable de diriger vers la fenêtre?
Non, là, c'est quand je parlais vers la fenêtre, c'est pour pouvoir, si on n'a pas un logement traversant, où d'un côté à l'autre du bâtiment, l'air va circuler naturellement, on va diriger le ventilateur, quand on n'a pas eu besoin uniquement sur soi, vers la menuiserie, oui, effectivement, depuis le fond de la pièce, pour forcer l'évacuation de la chaleur stockée dans le logement. En parlant de ventilation, là où on va pouvoir mettre en place un équipement, soit maintenant, soit dans le temps, très performant, peu coûteux et assez facile à mettre en œuvre, que sont les ventilateurs de plafond. Je pense que tout le monde se rappelle de ces équipements qui datent presque du Far West pour certains, avec des lampes décorées. C'est un équipement qui est très performant parce qu'il joue sur la température ressentie par l'occupant. C'est-à-dire que le thermomètre ne va pas mesurer une baisse de température, c'est le même principe qu'un ventilateur, sauf qu'on va l'installer au plafond, qu'il a des pales bien plus larges, d'un diamètre au minimum d'un mètre 32, on juge pour que ce soit efficace. On peut en mettre un ou plusieurs. C'est adapté pour les maisons individuelles. Encore une fois, les bâtiments type bureau, crèche, école. On sait qu'on peut être entre 7 à 14 fois moins consommateur qu'avec une climatisation.
Ça, c'est pour les gestes d'urgence, pour parer aux fortes chaleurs qui vont repartir hein, en Pays Midi-Quercy avec le conseiller en rénovation du service Habitat. Puisque vous êtes là, Kevin, dimanche sont sorties quelques nouvelles petites annonces du gouvernement concernant les aides financières que vous proposez usuellement. Alors, il nous reste deux minutes pour essayer de rassurer un petit peu et dire que non, c'est pas totalement fini, qu'on va pouvoir quand même avoir quelques petits coups de pouce.
Tout à fait. Alors malheureusement, on a appris que les rénovations par jet allaient être réduites de nouveau sur l'isolation, les menuiseries. Bon, c'est pas encore acté, on s'oriente vers une décision vers septembre. Par contre, ce qui reste complètement ouvert et qui est une des choses les plus pertinentes, c'est ce qu'on appelle la rénovation d'ampleur. Donc pour les bâtiments qui sont classés avec un audit énergétique en E, F ou G, on va pouvoir mobiliser pour tous les types de revenus, qu'on soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, le dispositif MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur. Là, on embarque systématiquement deux gestes d'isolation, parmi lesquels les menuiseries, la toiture et ou les murs. On pourra changer les systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et sont inclus dans ce dispositif les protections solaires comme des brise-soleil, des volets, qu'ils soient en bois, en alu, en PVC, ça protégera du soleil. Également les brasseurs d'air dont je viens de parler. Donc voilà, et c'est là-dessus où on peut continuer à massifier la rénovation énergétique des bâtiments en faisant des projets de rénovation d'ampleur où durablement on pourra réduire nos consommations énergétiques, baisser les émissions de gaz à effet de serre, parce que, petite parenthèse, là on parle beaucoup de l'adaptation des logements, mais derrière ça, si on veut que ça continue à rester vivable, il faut surtout jouer sur la limitation des gaz à effet de serre.
Mais on ne veut pas parler de la clim là.
Alors la clim, je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat, c'est pas quelque chose qui est dangereux en soi. Par contre, c'est pas l'outil premier. Il faut d'abord isoler son logement. Il faut d'abord que les solutions dites passives, protégées du soleil, limiter les consommations énergétiques, ça passe par de l'isolation et pas par des systèmes. Et oui, effectivement, une climatisation, c'est considéré comme décarboné en France, puisque c'est de l'électricité. N'oublions pas quand même que les gaz frigorigènes à l'intérieur des climatisations ont un pouvoir de réchauffement climatique en cas de fuite de gaz ou lors de son recyclage, qui est de l'ordre de dizaines de fois plus que du CO2.
On peut vous contacter, Kevin, à Quélus, dans les bureaux du service Habitat du Peut-être du PMI d'Icercy. Vous contactez en passant par le site internet du PMI pour avoir votre numéro, vos coordonnées, pour prendre rendez-vous et pour avoir quelques petits coups de pouce, quelques conseils surtout, parce que même si les aides ne sont pas forcément déclenchées, les aides de l'État, donc eh ben, on a vos savoirs et vos compétences à notre disposition pour bénéficier de quelques degrés de moins en été et quelques degrés de plus en hiver. Sur le site du PMI d'Icercy, on tapote votre nom, Kevin Hand, conseiller en rénovation pour le PETR du Pays Midi-Quercy. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le MAG du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.